Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Et pour ce mois d'avril, c'est Radio Ondaine à Firminy dans la Loire qui embarque au ras des pâquerettes. Il sera question d'habitat collectif, sur pilotis, presque partagé, ou en studio, nous avons invité des membres de la Fédération Européenne, des associations d'habitants des unités d'habitation de Le Corbusier, dont l'Assemblée Générale s'est tenue à Firminy à la fin du mois de mars. Une découverte musicale avec Bonneville, pop à la française, aérienne. Et la hauteur de l'esprit avec des enfants stéphanois qui, lors d'ateliers artistiques de la galerie TAG, ont planché sur l'égalité filles-garçons à l'occasion des semaines de l'égalité organisées sur le territoire de Saint-Étienne Métropole durant le mois de mars.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Les vêtements ont-ils un genre? Voici une question à laquelle un groupe de 7 enfants âgés de 6 à 11 ans ont tenté de répondre en participant à une série d'ateliers coopératifs développés par la galerie TAG Tea Time Atelier Galerie 26 rue Gambetta à Saint-Étienne. Accompagnés par Amandine Alves da Fonseca et Anne-Charlotte Deloum, d'autres questions sont apparues. En quoi le vêtement nous définit-il? Que dit-il de nous, de l'autre, d'une femme, d'un homme, etc.? Autant d'interrogations pour parler de genre, d'identité, d'égalité, filles-garçons ou hommes-femmes. Et c'est dans le cadre du projet global In Situ et celui des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole que les travaux de Sacha, Marianne, Faustine, Oscar, Louise, Joric, Lucie sont visibles jusqu'à la fin du mois à la galerie TAG à Saint-Étienne. Bonjour.
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 Alors on va commencer cette discussion avec Amandine de la galerie TAG. Qu'est-ce que c'est à Saint-Étienne cette galerie ?
Alors la galerie TAG, c'est à la fois un lieu d'exposition et un lieu d'atelier d'art plastique où on effectue des ateliers de dessin et peinture, donc d'une part avec différents publics, enfants, ados, adultes. Voilà, et puis pour la part exposition, donc on fait des expositions de manière ponctuelle, on change tous les mois, donc chaque mois on accueille des artistes différents, avec des techniques différentes, que ce soit peinture, dessin, sculpture, gravure, illustration, c'est très large, avec des thématiques différentes, des sujets différents, pardon. Voilà, sélectionner un petit peu au coup de cœur, on fonctionne... un petit peu au coup de cœur, à la rencontre de l'artiste.
Alors c'est un lieu d'exposition, un lieu où on va mettre aussi en avant donc, les travaux d'artistes en centre-ville de Saint-Étienne, mais c'est aussi une volonté d'initier à la pratique artistique et aux arts plastiques par le biais d'ateliers.
Oui, complètement, complètement. Donc ça va, les ateliers vont se baser... Enfin, c'est très personnalisé, c'est-à-dire qu'on va proposer des ateliers par rapport à ce que les personnes ont envie de travailler, notamment pour les ados et adultes. Après, pour les enfants, c'est souvent des ateliers qui vont être établis en relation avec les expositions du moment. Donc, il y a une vraie volonté de médiation artistique, d'éducation artistique, en fait. Voilà. Donc.
Alors l'éducation artistique se fait sur la pratique, sur la façon de regarder peut-être une œuvre, mais aussi dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui, ça se fait sur la réflexion, sur des thèmes de société. Alors vous avez travaillé les enfants sur un projet qui porte ce titre-là, les vêtements ont-ils un genre? Quel est ce projet-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour cette petite exposition ici? Expliquez-nous un peu.
En fait on a fait un peu... le droit des femmes, on a fait des vêtements. On faisait un vêtement où les femmes et les hommes pouvaient tous les deux les porter.
En fait, nous, on a créé un foulard vu qu'on s'est dit que les hommes et les femmes pouvaient le porter.
Pour nos auditeurs, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer un peu les couleurs que l'on retrouve sur ce foulard-là ?
On retrouve du noir, du jaune et du rouge.
On a choisi un motif dans un livre de motifs qu'on a dû tous peindre sur un morceau de tissu. Et après, Amandine, elle les a cousus ensemble et ça a fait le foulard.
Alors, ça remonte un peu, hein, ces ateliers, ça s'est déroulé sur plusieurs mois. Si vous devez expliquer comment ça se passe, un atelier, Sacha, explique-nous un peu comment tu viens ici les mercredis matins et qu'est-ce que tu fais ?
Ben, on fait du dessin. On a travaillé sur du tissu, on a peint dessus. Et après, Amandine les a accrochés.
Ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu aimes quand tu viens dans ces ateliers-là, pratiquer l'art, le dessin, qu'est-ce que tu aimes ?
J'aime bien pratiquer le couteau et représenter des tableaux qui sont sur l'exposition.
Alors le couteau, on va peut-être expliquer ce qu'est le couteau, parce que là, les auditeurs vont avoir peur.
Alors, ce n'est effectivement pas le couteau de cuisine. Le couteau, c'est un outil spécifique qui ressemble un petit peu à une sorte de... une petite pelle, voilà, c'est exactement, c'est une petite pelle. Et qui permet de travailler la matière avec la peinture, voilà, pour déposer sur la toile et donner un effet de matière, de relief.
On va revenir à ce foulard qui est exposé ici et le travail qu'il y a eu. J'ai posé plusieurs questions parce que c'est des questions qui sont sur le livret. Les vêtements ont-ils un genre ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des vêtements que pour les filles, que pour les garçons ? Ou est-ce que... Alors, Marianne, vas-y.
Bah, tout le monde est libre de porter ce qu'il veut. Les garçons peuvent porter des robes, les filles peuvent porter des pantalons. Tout le monde est libre de porter ce qu'il veut et personne ne leur dit « tu ne portes pas ça ».
Ça, c'est une réponse qui me plaît beaucoup, parce que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Est-ce que ça vous arrive souvent de réfléchir à ça avant de ces ateliers-là ? Est-ce que vous, dans la vie, votre vie tous les jours à l'école, eh ben, vous avez le coin des garçons, le coin des filles, et c'est comme ça dans la cour ?
Non, ça c'était avant. C'était bien avant. On a le droit de faire une récré, enfin d'être à l'école avec les garçons et les filles. Ils sont pas séparés.
Donc on est tous ensemble et on s'amuse tous ensemble si on parle de l'école. Et là, si on parle de ces ateliers-là, il y a une notion qui est importante, il y a un mot qui est important dans ces ateliers, c'est le mot participatif. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot-là, participatif ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, qu'il faut tous participer.
Ouais, et tous participer, on peut tous participer ouais. Dans son coin ?
Bah... Des fois, oui, des fois on doit agir ensemble.
D'accord. Alors, comment on fait pour agir ensemble ?
Ben, on participe en groupe.
Ouais. Alors, ce groupe-là, comment il se développe ? On participe en groupe. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin d'un atelier, vous vous dites, eh ben, j'ai travaillé, j'ai participé à un projet avec les copains ?
Bah, il faut tous se mettre d'accord et on travaille en groupe, on s'aide.
On propose ouais. Une idée, par exemple à tes copains, copines. Et après, quand tout le monde est d'accord, et on fait cette idée et on rend le monde meilleur.
On discute, on explique, parce que si on dit on prend ça, et on ne va pas comprendre. Donc on explique pourquoi et on explique bien. Comme ça, les autres, ils peuvent comprendre.
Et dire que c'est une bonne idée et qu'on avance tous dans ce sens-là. Amandine, on revient un peu sur... on élargit un peu au-delà de ces murs. L'idée aussi, c'est de développer de la médiation culturelle ailleurs, aller vers des publics directement dans leur lieu de résidence. Comment ça se traduit pour vos activités ?
Alors très souvent on répond à des demandes en particulier, à des problématiques particulières. Je pense notamment à un projet qui a été réalisé l'année dernière au Chambon-Feugerolles avec des jeunes en décrochage scolaire, où la demande était d'effectuer des ateliers autour de la thématique « Prends ta place ». Et donc là, c'était directement relié à vraiment des problématiques personnelles de ces jeunes et à leur situation actuelle scolaire. Et le but, c'était d'utiliser les arts plastiques, d'utiliser le dessin, d'utiliser la peinture pour réfléchir sur cette notion-là et réfléchir sur... sa place au sein de l'école, mais plus largement la place au sein de la société finalement, et peut-être de se réinvestir par un autre moyen. Et donc nous on envisage beaucoup la médiation artistique pour traiter différentes problématiques de ce genre-là.
Alors, si l'on parle de ces jeunes en décrochage scolaire, ça représente combien d'heures sur ces ateliers-là? Et puis après, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour justement qu'ils ne décrochent pas non plus à ces ateliers-là?
Alors, pour ce projet-là, c'était un projet sur plusieurs semaines. Il y a eu 5 interventions. Et donc, effectivement, au niveau du groupe, le fait que ce soit permanent, c'est assez compliqué. Mais pour essayer de maintenir une permanence du groupe, on a décidé ensemble, enfin moi j'ai décidé vraiment de les investir dans le résultat final, parce qu'il y a eu un résultat final et une reconstitution publique. Et donc c'était un peu une manière de valoriser le travail fourni pendant les ateliers. Personnellement, j'envisage toujours les ateliers comme un processus, avec une reconstitution à la fin, même si la reconstitution n'est pas obligatoire.
D'accord.
C'est pas obligatoire. Mais...
Alors ce public de ces jeunes-là qui viennent, qui produisent, est-ce que après on rappelle ça? Alors peut-être pas vous, mais la structure qui va les accompagner aussi, est-ce que c'est quelque chose qui perdure dans le temps, et est-ce qu'il y a cette volonté-là de valoriser sur une création?
Alors pour ce projet-là, en l'occurrence, oui, il y a une volonté même de l'établissement, des personnes avec qui j'ai travaillé, les encadrants, l'enseignante. Oui, il y a une volonté de mettre en valeur la reconstitution et de faire perdurer le projet. D'ailleurs, suite à ce projet-là, on a entamé d'autres discussions pour travailler plus ou moins sur la même thématique, mais glisser peut-être plus vers la libération de la parole, parce que on s'est rendu compte que ce genre d'atelier était très bénéfique pour ces publics, mais en fait un peu pour tout le monde. Et on a notamment ciblé un public plus féminin qui est très très demandeur de ce genre d'atelier-là. Et donc voilà, donc ce sont des projets qui vont être amenés à être développés au courant de l'année.
Avec une forme d'aller-retour, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi aller vers, mais les inviter ici dans votre galerie.
Exactement. Il y a quand même la volonté de faire venir, de faire connaître un lieu, une galerie qui peut-être à premier abord on ne franchirait pas la porte. On a cette volonté-là, oui, d'amener les gens, de les accueillir pour leur faire connaître un petit peu ce monde sur lequel tout le monde a son mot à dire, en fait. Enfin, on peut tous parler d'un tableau, on peut tous faire quelque chose. Donc voilà, il y a aussi cette volonté.
Et on peut tous réaliser un projet qui fait réfléchir. Ce projet-là, c'est l'objet de notre émission. Les vêtements ont-ils un genre, avec la création de ce foulard jaune, noir et rouge avec des cœurs dessus et un petit livret qui l'accompagne. Alors, on va rappeler les prénoms de tous nos jeunes. Ici, Sacha, Marianne, Faustine, Oscar, Louise, Jorik et Lucie. Quand vous faites cet atelier-là, qui est important, on parle d'égalité finalement entre les filles et les garçons, est-ce que quand vous revenez à la maison, vous en parlez à vos parents?
On parle de tous les thèmes qu'on fait un peu. On parle un peu de tout ce qu'on fait au dessin, pas dans les moindres détails, mais on parle des thèmes qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a fait.
On explique ce qu'on a fait et même que des fois on montre... Par exemple, quand on fait des peintures, on peut les montrer quand c'est sec. Et du coup, on peut voir ce qu'on a fait.
Alors, est-ce que c'est important pour vous que vos parents voient ce que vous avez réalisé?
Moi, je trouve que oui. Ça fait pas cacher des choses.
Au moins, ils peuvent savoir ce qu'on a fait et comment c'est.
Quand on aime bien... c'est important de dire à ses parents ce qu'on fait, tous les... Je sais pas comment expliquer.
Moi, j'aime bien montrer ce que j'ai fait à mes parents parce qu'ils sont fiers de moi et ça m'encourage aussi.
Toute l'importance de ces projets-là, c'est amener à valoriser la production, parce que quand on est valorisé, ben on est heureux dans la vie, on est content de se lever tous les matins, on est content de venir ici à la Galerie TAG. Et puis je pense qu'on va continuer à annoncer cette exposition. Alors il suffit de se rendre autour de cette vitrine de galerie, et puis on a une vitrine qui va montrer le livret et puis la réalisation de ces enfants. Ça rentre dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, c'est tout au long du mois de mars. Quand on a une structure telle que celle-ci, travailler sur ces thèmes-là de l'égalité, qu'est-ce que ça représente pour une galerie telle que la vôtre, et puis quelle est la volonté finalement de s'inscrire dans un événement collectif à l'échelle de la métropole ?
Alors ça nous donne de la visibilité. Et puis ça permet aussi de s'inscrire dans un réseau, et je pense que c'est important et intéressant de faire réseau, c'est-à-dire de travailler avec d'autres structures, avec des publics qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir aussi sur les ateliers permanents. Donc oui, je pense que ça nous permet vraiment de faire ça, de faire réseau.
Alors ce réseau-là, il existe, il faut se renseigner, un peu creuser aussi un petit peu pour savoir tout ce qui se passe. Et on était ravis ici sur l'antenne de Radio Ondaine de venir au cœur même de vos ateliers. Merci les enfants, merci Sacha, merci Marianne, Faustine, Oscar, merci Louise, merci Joric, merci Lucie d'avoir participé à cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin de cette émission ? On se dit au revoir peut-être.
Alors. Au revoir.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Aura des pâquerettes.
Bonneville est un artiste stéphanois, c'est un artiste émergent, comme on dit. C'est un artiste nouveau, mais c'est un artiste qui existe dans le paysage culturel de la ville depuis quelques années. Bonjour, Bonneville.
Bonjour.
Est-ce qu'on t'appelle comme ça, du coup ? Est-ce que tu as un prénom ?
Bien sûr, je m'appelle Théo. Tu peux m'appeler Théo, si tu veux.
Alors, je t'appelle Théo. Bienvenue. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que cette aventure musicale sous ce nom, Bonneville ? Pourquoi ?
Je faisais partie du groupe Gaterim, en fait, déjà il y a quelques petites années, et puis le confinement est arrivé, avec l'ennui que ces jours provoquaient, et j'ai fait donc des chansons que j'ai envoyées ensuite à Fid, un réalisateur, et puis on a avancé comme ça, on a concocté plein de petites chansons, et puis on s'est dit que maintenant c'était un peu le moment de lancer le projet, quoi. Moi, j'ai un papa qui a été très très fan de musique, ma mère aussi, mais mon père plus particulièrement, et qui m'a fait écouter beaucoup beaucoup de chansons françaises, notamment les grands classiques, quoi, de Gainsbourg à Bachung, Renaud, etc. Donc c'est là un peu que j'ai puisé un peu mon inspiration et mon cadre, quoi. Et après, bien sûr, je suis passé par plein d'autres choses qui m'ont fasciné également, mais on va dire que j'ai grandi au départ avec cette variété.
Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir ?
J'espère pouvoir dévoiler un premier single début mai. Et puis ensuite, du coup, il y a surtout le lancement scénique un peu du projet avant, parce que avant de sortir quelques singles, j'avais besoin un peu de les tester en vrai.
Oui.
Puis la scène, je trouve que c'est vibrant, quoi, c'est vraiment ce qui m'anime. Et du coup, on a aussi Parole et Musique le 21 mai, festival Parole et Musique où je jouerai le 21 mai avec Brick Argent.
D'accord.
Un autre projet émergent de la région.
Sur scène, il faut s'attendre à quoi ? Est-ce que vous êtes en duo ? Est-ce qu'il y aura d'autres personnes ?
On est en duo pour l'instant. Voilà, mais ça joue quand même pas mal live entre la guitare, la basse, du coup, de mon gorille.
Alors tu effectivement, tu nous as choisi un titre que l'on va écouter tout de suite. Comment s'appelle-t-il? Et puis explique-nous un peu pourquoi ce titre-là.
Il s'appelle Danse sur les hicks. Il fallait en choisir un. J'ai choisi celui-ci car je trouve que dans le climat ambiant actuellement, il avait une belle place. Et que c'était un morceau, c'est le morceau qui m'a parlé, quoi.
Merci Théo, merci Bonneville d'avoir pris ces quelques minutes pour passer sur l'antenne de Radio Mondaine et dans cette émission Aura des Pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes sur les radios de la Fédération Aura FM. Merci à toi.
Merci.
Des singes fument des clopes, des enfants tombent en claques, des hommes font des stocks, de femmes et de coques, des politiques prennent du crack, des fleurs prennent des claques, des prêtres ont la trique, des chanteurs ont le trac. Pas de panique, danse sur les hicks, y'a pas d'arnaque, danse sur les couacs. Métal et plastoc, les GAFA sont d'attaque. Tout ça me choque, mais qu'est-ce qui est chic? Certains pour des chèques donnent des coups de pare-choc. Certains baissent l'Afrique, d'autres baissent leur froc. Des problèmes d'éthique qui reviennent comme des tocs. Mais pas de problème, pas de panique, pas d'arnaque. Danse sur les hicks, ok. Danse sur les
des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur. Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Ce dernier week-end de mars, Le Corbusier était à l'honneur à Firminy dans la Loire. Au-delà de son œuvre, c'était à travers les habitants des différentes unités d'habitation que l'architecte existait en fond de l'Assemblée Générale de la Fédération Européenne des Associations d'Habitants des Unités d'Habitation de Le Corbusier. Radio Mondaine vous propose une rencontre aujourd'hui avec Martine Vitu, qui est membre fondatrice de la Fédération, ancienne présidente, Marcus Nitschke, qui vient de Berlin, Priscilla Habitant-Courbiassi, une doctorante qui étudie les habitudes et la façon de vivre ici au Corbusier, Fabrice Brault, président de l'association des habitants de l'unité d'habitation Le Corbusier de Firminy. Bonjour à tous les quatre, bienvenue sur l'antenne de Radio Mondaine, bienvenue sur les antennes également des radios associatives de la Fédération Aura FM. Comment s'est passée cette Assemblée Générale?
Effectivement, donc c'était un très beau moment que nous avons pu passer ensemble. Donc, l'Association des habitants de Firminy a eu vraiment le plaisir d'accueillir pour ce week-end vraiment des gens de tout horizon, hein, puisqu'ils viennent de Marseille, de Rezé, de Berlin, de Pessac. de briller en forêt. Donc c'est vrai que c'est toujours des moments de retrouvailles sympathiques, d'échanger de nos points de vue, de nos expériences. Et en plus, on a eu la chance ce week-end de leur offrir différents visions de Le Corbusier sur le site de Firmini, puisqu'on a pu travailler, œuvrer dans la Maison de la Culture. On a assisté à un concert à l'église de Festivocal. En début d'après-midi, nous avons déambulé également avec Festivocal dans un cadre, une déambulation vocale. On a commencé sur le toit terrasse pour aller à l'école maternelle, pour aller à la première rue, pour ensuite aller dans le hall. Donc ça a été vraiment des moments fort sympathiques, au-delà de la partie que je vais appeler statutaire. C'est vraiment l'opération, une belle opération qu'on a eu le plaisir avec les autres habitants de l'unité d'habitation de Firmini, d'organiser et de pouvoir échanger, de pouvoir héberger également ces gens-là qui ont un vrai plaisir à voir les différences entre leurs unités et notre unité. Et c'est toujours plein de moments très sympathiques.
Alors effectivement, l'objet de mon invitation ici, c'est de mieux comprendre cet esprit qui réunit des habitants de Firmini, de Marseille, de Briey, de Berlin, de Rezé, on va pas oublier, et puis d'autres unités d'habitation à Pessac, hein, où là c'est un peu différent. Si chacun doit décrire un peu à sa manière, non pas l'esprit, mais la façon dont vous vivez dans vos unités, qu'est-ce que c'est, Marcus, allez-y, comment vit-on à Berlin dans cet édifice créé par Le Corbusier?
Ah oui, à Berlin c'est un peu particulier parce qu'on est un peu éloigné du centre-ville et on vit dans la forêt et on aime ça, et tous les gens qui vivent dans la maison, on sait où on vit, Le Corbusier, et on peut demander les gens chez nous, qu'est-ce que c'est ici? Oui, c'est une cité radieuse, Le Corbusier, et on peut parler avec ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui semblent de nous traiter ensemble, parce que toujours quand on parle avec un Corbusien ou une Corbusienne des autres unités d'habitation, c'est toujours la même chose. Où tu habites, à quelle façade, tu as un descendant ou un montant, combien de chambres. Et ça, c'est la première rassuration au début de chaque communication.
À Rezé.
Alors, à Rezé, c'est un petit peu particulier. C'est la seconde unité d'habitation après celle de Marseille. Premiers habitants, 1955. Moi, j'y habite depuis 1956. C'est-à-dire que j'y suis arrivée vraiment dans ma première enfance. C'est la plus petite des unités d'habitation. Il y a une association d'habitants depuis l'origine. Et l'histoire a été beaucoup moins mouvementée qu'à Firmini ou à Briey. Une histoire beaucoup plus linéaire. Par conséquent, beaucoup plus de liens sociaux, beaucoup moins de difficultés dans les activités associatives. Et bon, comme vient de le dire Marcus, on adore jouer au petit jeu des tabitous, montant et descendant un 4 pièces sur quelle façade, qu'est-ce que tu as fait comme transformation. Mais la particularité de Rezé, c'est qu'on a effectivement une vie associative extrêmement riche.
Alors c'est ce qui marque, et beaucoup d'émissions que nous avons réalisées à Radio Ondaine expliquent ça finalement, avec les différents habitants qui s'impliquent dans la vie commune. À Firmini, on peut peut-être, Fabrice, expliquer aussi pour les gens qui ne connaissent pas cette unité d'habitation, sa particularité et cette ancienne école qui n'est plus en service, mais c'était aussi ça, le fait de vivre dans cet immeuble-là et d'y évoluer dès sa plus petite enfance, on va dire, et aller à l'école finalement sur toi.
Et effectivement, je pense que d'ailleurs, c'est, je pense, dans l'esprit de Le Corbusier, l'école maternelle était vraiment le lien qui crée une vraie vie sociale. En plus, nous, à Firmini, on a bénéficié de lieux spéciaux dédiés pour avoir des animations Hein, donc vraiment d'avoir des lieux qui permettaient aux uns et aux autres de partager leur passion. Et ça, on en avait plus d'une vingtaine de lieux comme ça, je dirais, dès le départ, hein, dans les années 67. C'était conçu pour ça, puisque c'était un logement, des logements sociaux, donc avec des mètres carrés obligatoires, hein, de la part, enfin, vis-à-vis des réglementations. Et tout ça a concouru, oui, effectivement, entre l'école maternelle et tout ce qui vient d'être dit, d'avoir une vraie richesse, une vraie vie active par rapport à ça. Et c'est vrai que malheureusement, à la fermeture, pour résumer, de l'école maternelle, tout ça c'est un petit peu délité. Bon, en plus, on est bien d'accord que Netflix et compagnie ont fait un tort complet depuis des années aux liens sociaux que l'on peut créer. Et on a là, voilà, nous, notre volonté aujourd'hui, c'est de recréer du lien à travers des animations très spécifiques. Comme tu le disais tout à l'heure, on organise chaque année les journées du patrimoine, dans lesquelles on va chercher à valoriser nos biens par les faire visiter. Hein, ça, c'est important, à créer des animations artistiques en collaboration étroite avec les habitants. Voilà, en tout cas, c'est la vocation, c'est la volonté que l'on a et on est très clairement, je ne veux pas dire déçu, mais on est en tout cas très enthousiaste. Quand, pour faire le lien avec la fédération, on est très enthousiaste quand on voit comment ça se passe dans d'autres unités d'habitation qui ont des supers expériences, qui font des super projets. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on sort des réunions de la fédération, on se dit « Ah bah tiens, c'est peut-être une bonne idée qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour réveiller un petit peu l'esprit solidaire et social que Le Corbusier avait voulu créer il y a maintenant plus de 50 ans. »
Alors Priscilla, vous avez un regard extérieur dans le cadre de votre doctorat et donc de la finalisation de vos études. Pourquoi vous intéressez finalement à cette façon de vivre et à l'appropriation par les habitants de leur lieu d'habitation ?
Bon, j'ai déjà étudié l'unité d'habitation de Marseille dans le cadre de mon master. Et en fait, j'ai été inspirée dans une partie par des habitants. Parce que dans mon master, j'étais à l'unité de Marseille et j'ai vu un monsieur il avait 2 mètres d'hauteur avec deux gros Rottweiler sortir dans les studios. Et je me suis dit, mais il faut qu'on regarde aussi comment les gens y habitent. Parce que j'avais étudié tout depuis la formation de l'architecte jusqu'à la finalisation du bâtiment. Et donc ça a commencé à titiller certaines choses et lancer certaines réflexions parce que aussi, normalement, quand on est architecte, Marcus est architecte aussi, il peut donner son témoignage par rapport à ça aussi. On va étudier des immeubles quand ils sont prêts, ils sont un peu vides, on va pas forcément étudier la vie qu'ils ont. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'avais vu presque tout qu'il avait à voir sur l'histoire de l'unité de Marseille. Et à partir de là, je voulais avoir cette question, après la remise de clés, comment ça se passait, surtout parce que je considère que, par exemple, on a des unités d'habitation, même s'il y a eu quelques changements, elles continuent à avoir la même vocation. Et qui fait que ces immeubles, ces copropriétés, ces appartements, ces œuvres de Le Corbusier continuent d'être pertinents? C'est ses habitants. Et c'est eux qui vont en fait aussi être des acteurs de l'architecture et qui vont continuer à transformer et à s'approprier de ces espaces. Et donc c'était comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Alors, donc je donne une perspective 100% habitant dans ma thèse, mais de voir l'appropriation, leur vie commune, etc. aussi, mais la question de l'attachement qu'ils ont à l'immeuble aussi, comme des initiatives des habitants, comme par exemple l'exposition Unité d'intimité qu'on a maintenant à Firmini, qui a déjà passé par des autres unités d'habitation, les grands des clubs par exemple qu'on a à Rézé, et des autres initiatives dont je m'intéresse surtout à ça, à raconter leur histoire, faire un répertoire de celui-là, et qui, nous, en tant qu'architectes, on a cette autocritique d'aussi regarder comment les gens tellement habitent et occupent les espaces pour avoir cela, avoir donné de la pertinence à la voix des habitants pour pouvoir concevoir des nouvelles habitations ou mieux profiter des bâtiments qui sont déjà là et qu'il faut qu'on adapte aussi pour des questions écologiques aussi, on peut dire.
Alors rappelons aussi la particularité dans les dénominations des étages dans ces immeubles-là, ce sont des rues, c'est donc une ville à part entière, certaines unités d'habitation ont ou avaient des commerces, il y a des activités proposées par les habitants, etc. Dans l'esprit que l'on peut donner, est-ce que quand on vient habiter au Corbusier, est-ce qu'on y vient par hasard ou est-ce qu'on y y vient par envie de vivre une expérience particulière dans son lieu de vie.
Tous les cas de figure. Il y a les primo-habitants sont souvent arrivés par hasard, ne sachant pas qui était Le Corbusier. Mais les premières unités d'habitation étaient construites dans le cadre de la crise du logement de l'après-guerre. Et donc, personne n'avait entendu parler de Le Corbusier. C'était simplement une opportunité d'avoir un appartement qui plus est grand, qui plus est confortable, qui plus est lumineux. Maintenant, il y a des gens qui viennent par choix. Parce que, d'ailleurs, souvent plus pour le projet de vie que pour l'architecture, parce D'accord. que l'architecture ne fait pas tout. Et puis, dans les bâtiments qui ont encore une vocation sociale, et c'est le cas à Rezé, puisque 55% des appartements sont du HLM, eh bien, il y a quand même des gens qui viennent parce que c'est tout ce qu'on leur propose. Donc là, eh bien, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Et bon, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui ne sont pas heureux dans du Le Corbusier. Mais il y a des locataires qui sont venus là parce que c'était la seule opportunité d'avoir un logement et qui finalement se piquent au jeu et vont rester 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Ce qui ressort des discussions qu'on peut avoir, c'est l'environnement qui est souvent favorable avec de la nature à proximité, avec des bois. On peut avoir aussi un lac, je crois.
Oh, un lac, n'exagérons pas. Une pièce d'eau, un étang. Mais nous ne sommes pas peu fiers, à Rezé, d'être les seuls qui avons de vrais pilotis, puisque un pilotis, par définition, ça a les pieds dans l'eau.
Les pieds dans l'eau.
Donc, effectivement, on a une pièce d'eau qui était préexistante à la construction de l'immeuble et que Le Corbusier, très soucieux de l'environnement, a préservé dans son projet.
Et c'est aussi une vision d'une mixité sociale que l'on peut avoir au quotidien. Vous le rappelez, il y a des locataires, des personnes qui sont ici avec des logements sociaux, il y a des propriétaires occupants, il y a des propriétaires également qui louent aussi leurs appartements. Dans cette vie que l'on a avec des gens qui sont installés, qui vont rester, des gens qui sont de passage, comment ça se vit quand on est propriétaire? Est-ce que on discute avec les gens? Est-ce qu'on explique quand ils arrivent? On les accueille de quelle manière, les nouveaux arrivants?
Alors, à Rezé, par rapport à Firmini, il y a un mélange des populations dans le bâtiment, puisqu'il n'y a pas les propriétaires dans une partie du bâtiment et les locataires ailleurs. Donc, dans toutes les rues, il y a des propriétaires et des locataires. Et quand vous passez dans la rue, quelqu'un de non-initié, ou même quelqu'un qui habite là depuis un moment, est incapable de savoir qui est propriétaire, qui est locataire. Donc, ça se passe relativement naturellement. Et puis, il y a le lien fédérateur, qui est l'association des habitants, qui n'est pas une association de propriétaires ou de locataires. Et où tout le monde pratique les mêmes activités, se croise dans l'ascenseur. Je reviens sur le rôle essentiel de l'école, puisqu'à Rezé, l'école maternelle est sur le toit terrasse. Et elle est toujours, elle, en activité. Une quarantaine d'enfants en deux classes, des enfants de l'immeuble, mais aussi des enfants du périmètre scolaire, ce qui veut dire aussi qu'on ne vit pas en vase clos, on a aussi des échanges avec l'extérieur. Et bon, il y a des rues où il y a plus de locataires, parce que c'est vrai que les propriétaires ont eu tendance à acheter à la 5, à la 6 pour la vue. Mais on ne va pas dire que tout est parfait, et qu'il n'y a pas des heures. Mais pour l'exemple de Rezé, en tous les cas, il y a une relative harmonie entre les propriétaires et les locataires. Nous sommes des habitants.
D'accord. Alors, est-ce qu'on vit de la même façon à Berlin, Le Corbusier, qu'à Firmini ou qu'à Rezé?
Oui, à Berlin, on peut dire oui et non. Notre population devient de plus en plus internationale et les gens qui viennent chez nous, c'est le choix. Ils veulent vivre au Corbusier. Et si on demande pourquoi tu veux vivre au Corbusier, oui, c'est un monument architectural. Et j'aime l'idée de la communauté. Et la prochaine question est qu'est-ce que tu veux faire pour la communauté? Je dois faire quelque chose. Je fais ça. Et pour nous, c'est le problème. Il y a beaucoup d'adhérents à une idée générale, mais dans la réalité, on ne comprend pas qu'il faut faire quelque chose aussi pour vivre ensemble.
Alors, faire quelque chose et aussi, c'est ouvrir ses portes. On en parlait tout à l'heure avec Fabrice, c'est habituel aux Journées européennes du patrimoine où les habitants font découvrir leur appartement à des visiteurs. C'est aussi l'exposition itinérante qui s'appelle Unité d'intimité, où là, on demande à des habitants de se prendre en photo, alors prendre un être, en tout cas vivant, ça peut être soi-même, son chat, son oiseau, dans son lieu d'habitation. Et ici, les habitants se muent en artistes, finalement, parce que une exposition existe et va être proposée. Elle est actuellement à Firminy. Et là, qui a cette idée de faire quelque chose en commun et est-ce que, quand on parle des Journées européennes du patrimoine, est-ce que c'est valable sur toutes les unités d'habitation?
Oui, tout à fait, c'est des projets communs. Enfin, si, là, il y a deux questions. Hein. La première sur le sujet de l'exposition, c'est vraiment le fruit de nos journées que l'on a pu passer ce week-end sur ces assemblées générales, où c'est des moments où on va phosphorer un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est vrai que cette exposition est le fruit d'un projet d'il y a 2-3 ans. L'année dernière, une autre idée est née d'avoir un bulletin donc sur lequel on a pu présenter de façon, j'ai envie de dire, grand public, à quoi ressemblent et qu'est-ce que sont les différentes unités d'habitation. C'est vraiment de montrer le partage, etc. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça fonctionne assez bien. Et effectivement, les Journées du patrimoine, c'est par définition, en tout cas, voilà, toutes les unités d'habitation font leur Journée du patrimoine avec des modalités qui leur sont propres. Mais bon, très clairement, Marseille, c'est entre 3 et 4 000 visiteurs au moment des Journées du patrimoine. Rosé, c'est autour de 1 000, 500 000.
Un millier, oui.
Voilà, nous, on va être autour de 500. C'est variable année après année. Voilà, ça tourne, ça fonctionne. Ça montre. Alors, c'est vrai que l'année où il y a l'UNESCO, bah forcément, ça, on a doublé, voire triplé les chiffres. Ce qui paraît logique, puisqu'il y avait quand même un peu le buzz de Le Corbusier et l'UNESCO. Et voilà, donc c'est tout ça, ça fonctionne bien. Et on apprécie, en tout cas, moi je pense que les gens qui ouvrent leurs portes, il n'y en a pas énormément, mais ils apprécient toujours de passer un moment à montrer leur chez-soi, parce qu'en fait l'image, on voit bien Firminy, quand on passe sur la Nationale, bon, les gens voient un bâtiment lambda, et c'est pas ça qui les attire, et voilà, et certains vont pousser la porte et vont être agréablement surpris quand ils vont voir comment nos appartements sont organisés. Ce week-end, moi, dans les personnes qui n'étaient pas habitantes, mais j'avais une personne non habitante, et je lui exprimais le fait que pour moi, j'ai toujours habité en maison et avant d'arriver au Corbu, et que pour autant je suis venu au Corbu parce que j'avais trouvé qu'il y avait un vrai rapprochement entre une maison, un pavillon et un appartement, le Corbu. Cette luminosité, tout ça, c'est quelque chose qui moi me parlait. Je voulais profiter, on va dire, des espaces verts, mais sans avoir à les entretenir. Et pour moi, c'était très clairement, je suis peut-être trop pratico-pratique, mais c'était vraiment à la base ça qui m'a fait venir pour répondre à la question de tout à l'heure. Mais on a tous des idées et des schémas de vie différents ou des aventures différentes, et c'est ça qui fait la richesse. Et je recontinuerai sur tout à l'heure sur nous, on est cosmopolite à Firminy. C'est des gens qui viennent, hein, et toutes les couches sociales, mais il y en a presque tellement, et des différences culturelles tellement énormes, que malheureusement, on a du mal à lier des gens qui ont des cultures totalement différentes. Hein, on va avoir des gens des pays de l'Est, on va avoir des gens d'Afrique du Nord, voilà. Et ça ne facilite pas, en fait, ces échanges qu'on aimerait pouvoir avoir, mais qui rendent excessivement difficiles ces rapprochements, parce que justement c'est tellement cosmopolite que ben c'est le melting pot se fait pas aussi bien qu'on aimerait ou qu'on l'idéaliserait.
Après, vous avez quand même le mérite d'expliquer ce que vous faites en étant présent régulièrement, et j'imagine que toutes les associations le font dans chacune des unités. Et il y a une idée qui peut ressortir un peu de tout ça, c'est que
finalement ce côté précurseur d'habitat non pas collectif mais presque partagé, quelque chose qui tend à exister aujourd'hui. De plus en plus de personnes se posent la question de partager des espaces communs, de l'électroménager, même on n'en est pas jusqu'ici. Cet esprit-là, de cette vie en communauté, est-ce que vous vous y sentez, alors j'imagine que oui, mais totalement intégré? On parlait des Corbusiens, voilà, comment on se met dans la peau de quelqu'un qui partage son espace?
Je crois que ça se fait assez naturellement. Hein. Je reviens encore une fois sur le rôle de l'association des habitants, qui fait le lien, qui communique, qui accueille les nouveaux habitants avec une journée qui leur est spécifiquement réservée. À Rezé, on a un livret d'accueil pour un espèce de mode d'emploi, parce qu'une unité d'habitation, il faut avoir des clés aussi. Hein. Mais bon, il y a des gens qui ne se sentiront jamais corbusiens, hein, parce que l'idéal français, ça reste quand même le pavillon. Dans l'ensemble, même ceux qui sont venus par hasard, ils apprécient. Surtout que, quelquefois, je me souviens d'un visiteur qui m'avait dit mais votre truc là, c'est un kolkhoz. Et j'avais dit non, là vous vous trompez, c'est pas un kolkhoz, parce que la force d'une unité d'habitation, c'est que, ok, il y a une vie collective, ok, si vous voulez du lien social, vous en aurez à foison. Mais par contre, vous pouvez parfaitement avoir une vie privée, vous êtes pas obligé de passer par le hall d'entrée. Vous êtes obligé de dire bonjour, bonsoir dans l'ascenseur. Mais une fois que vous êtes dans votre appartement, il n'y a aucune obligation de participer à la vie collective. Hein. Si votre sensibilité, votre fibre, votre histoire vous incite à participer, il y a tout ce qu'il faut pour. Hein. Par contre, si vous êtes plutôt solitaire ou si c'est un moment de votre vie où vous n'avez pas envie de communiquer, bon, vous êtes dans votre appartement, vous y êtes bien, vous avez la vue, vous avez la nature à portée de main. Parce qu'à part Marseille, où il y a un parc un petit peu petit, on a tous de vastes espaces verts. Mais vous n'êtes pas obligé de participer à la vie collective. Hein. Et ça, c'est pas un kolkhoz.
Exactement. Alors, on va terminer cette émission, finalement, sur les perspectives de la fédération. Qu'est-ce qui s'est décidé, s'il y a des choses qui se sont décidées, et à quoi doit-on s'attendre? On en parlait avec Fabrice lors de nos différentes rencontres, c'est l'idée de voyager, que les habitants aillent découvrir d'autres unités, c'est important aussi de les rencontrer. Mais voilà, concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir pour la fédération?
Alors, donc, il n'y a pas eu de grandes résolutions, mais en tout cas une poursuite de mettre en place un numéro 2 depuis le Corbu, le bulletin qu'on a lancé cette année, avec une volonté de travailler sur, de creuser un peu un certain nombre de sujets. Et en l'occurrence, ce que l'on veut avoir en filigrane, c'est avoir un fil conducteur sur une thématique et d'avoir une thématique qui s'explique dans avant, maintenant et après. Hein, et en l'occurrence, le premier sujet tournera autour de l'implantation, l'environnement. Pourquoi on est là? Pourquoi on est arrivé finalement à Firminy, à Marseille, à Rezé? Comment on le vit aujourd'hui et quelles sont les perspectives demain par rapport à des projets de politique ou de l'environnement de la ville? Bref, tout ça, c'est la thématique de la prochaine fois. On va poursuivre l'exposition « Unité d'intimité » qui sera donc à Marseille cette fin d'année, et ça nous paraissait d'autant plus important que ils fêtent leur 70e anniversaire, donc c'était pour nous important symboliquement que l'on soit présent dans la cité radieuse pour ce 70e anniversaire à travers ces 5 unités d'habitat, à travers ça. Et on espère en tout cas, dans les beaux projets, c'est d'aller l'année prochaine à Berlin. Donc on est en train de voir comment construire, d'un point de vue économique, ce projet, puisque ça veut dire une vingtaine de personnes qui vont se déplacer à Berlin. Donc ça veut dire qu'il faut les loger, il faut les déplacer. Et c'est vrai que je pense qu'on apprécierait énormément d'aller se passer quelques jours à Berlin. Et en tout cas, on espère que Marcus et la fédération, on trouvera les ressorts pour y arriver et faire plaisir à tout le monde.
En fait, c'est un bon moment pour aller à Berlin, parce que la ville de Berlin a un grand projet qui s'occupe de l'architecture moderne et de ses habitants, Est et Ouest. Et on veut essayer de relier les gens de ce projet et nous, parce que ce sont les mêmes problèmes, comment on vit dans l'architecture moderne, comment on vit avec les touristes, comment on veut conserver le patrimoine. Et dans ces années-là, 22, 23, la ville de Berlin a ce grand projet et on veut essayer de faire part.
Eh bien, écoutez, l'invitation est donnée, hein, je viendrai. En tout cas, merci, merci Marcus, merci Priscilla, merci Martine, merci Fabrice d'avoir pris quelques minutes pour venir nous parler de votre vie au Corbusier, ici sur l'antenne de Radio Mondaine. Je rappelle, cette émission est diffusée aussi dans le cadre du projet Aura des Pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes dans les radios associatives fédérées à Aura FM. Merci à vous.
Merci.
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 Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.